Je suis Patty Wolf, pas très grande, mais ça va très bien en Asie. Hein. Pour une fois, je vais avec tout le monde. Mais j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus quand j'avais 9 ans. Moi, je suis convaincue que Dieu parle aux enfants. Amen. Et j'ai encouragé ce matin aussi déjà que vous puissiez prier pour les moniteurs et les monitrices qui enseignent les enfants. C'est une très grosse responsabilité. Parce que si vous vivez quelque chose, vous allez le transmettre. Vous allez le transmettre. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est que ces petits bouts de choux voient que Dieu est un grand Dieu. Voient que Dieu répond à nos prières. Et je le vois en Asie, combien Dieu répond aux prières de ces petits bouts de choux qui n'ont rien du tout. Mais Jésus est vivant. Il est encore vivant aujourd'hui. Et ce soir, il va encore vous montrer combien il peut faire dans vos vies et au travers de vos vies. Parce que ce n'est pas juste un sens. Hein, ça va comme ça. Et ça, c'est beau, parce que ce que nous recevons, nous pouvons le partager à d'autres, et c'est extraordinaire. Et puis, bon, je me suis dit, ben, le Seigneur m'a parlé que je vais être missionnaire en Asie. Alors moi, je viens d'une région où on est tous, mes grands-parents, arrière-grands-parents, c'était des mineurs de charbon. Moi, j'ai vu mon papa toujours revenir avec les yeux tout noirs, tout plein de souillis et tout ça. Et se laver encore à la maison, parce qu'à la mine, c'était pas assez, hein. Mais Dieu a touché notre famille et mon grand-père était le premier qui a donné son cœur au Seigneur Jésus. Quel héritage! Quel héritage! Moi, je bénis les grands-parents parce que je sais que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Ils ont transmis et il est marqué dans la Bible que c'est de génération en génération en génération. Alors ne désespérez pas de prier pour vos petits-enfants. Dieu va tout mettre en œuvre pour toucher leur cœur. Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, ne baissons pas les bras, soyons persévérants, déterminés, parce que Dieu est un grand Dieu. Juste pour vous dire que, eh bien, Dieu a été fidèle. Ça fait maintenant 37 ans que je sers le Seigneur à plein temps. J'ai commencé jeune, hein. Je commence à avoir des cheveux blancs, ça vient. Mais Dieu a été fidèle du début jusqu'à maintenant, et il le sera jusqu'à la fin. Entre deux, j'ai dû grandir, j'ai dû apprendre, il y a eu des tempêtes, mais Jésus était toujours dans la barque. C'est ça la différence, c'est que malgré toutes ces tempêtes, malgré tous ces moments difficiles, Jésus a toujours été là. Les promesses de Dieu sont vraies encore aujourd'hui et Dieu veut nous encourager ce soir. Et je crois que c'est merveilleux de pouvoir être ensemble ce soir et de dire et de donner toute la gloire à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Si une vie est changée, c'est parce que Jésus veut montrer sa gloire. Parce que nous, on ne peut rien faire. Mais c'est Jésus qui œuvre, qui restaure, qui libère, qui guérit. C'est Jésus qui fait ça. Tout a été accompli à la croix. Et je ne peux que le louer pour cela. Et donc, j'ai grandi un peu. Et j'ai pu vraiment commencer au début avec Jeunesse en mission, parce que quand je voulais me lancer dans la mission, toutes les missions m'ont refusé. Parce que je n'étais pas mariée, parce que je n'étais pas secrétaire, je n'étais ni infirmière, ni enfin tout ça. Tous les critères qu'on cherche. Hein. Mais Dieu ne se trompe pas. Quand il nous a appelés, quand quelque chose Dieu nous a donné une promesse, il va l'accomplir. Et si peut-être plusieurs d'entre vous, peut-être Dieu a parlé et vous dites, mais j'ai encore rien vu, ne désespérez pas, parce que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Et il amènera à terme là où il vous a appelé pour faire ce qu'il veut faire au travers de vos vies. Donc je suis partie avec Jeunesse en mission au début, j'ai fait les écoles de Jeunesse en mission, je suis allée en Afrique, je suis partie en Asie et j'étais responsable déjà, je dirigeais des équipes à Hong Kong, on est allé en Chine, j'ai travaillé avec Frère André en passer des Bibles, ah, c'était exaltant ça. Hein. On nous a même arrêtés. Mais vous savez, j'étais jeune. Et quand on est jeune, on se dit, ben, c'est de l'aventure. Et je savais que si ce n'était pas mon heure, ce ne sera pas mon heure. Que Dieu sera avec moi. Mais on a pu vraiment voir combien Dieu œuvrait jour après jour dans la vie de ces gens. Même si des fois, on n'avait pas la langue, mais on avait les traités qu'on avait avec Frère André, les cassettes, vous savez, avec tout l'évangile dessus. D'abord, un côté, c'était que de la musique. Et tout d'un coup, la cassette se retournait et c'était le message du salut. Mais vous savez que personne ne bronchait, ils étaient là, ils nous regardaient, on savait quand tu faisais comme ça, on savait que c'était le message maintenant. Mais Dieu a touché des cœurs comme cela. C'était merveilleux de voir combien Jésus agissait. Et bon, j'étais leader, j'étais responsable, je dirigeais des équipes. Et voilà que mes responsables me disent, maintenant tu vas à Singapour. Singapour, Singapour c'est quoi? C'est que des Chinois, oui. Ah, j'étais contente parce que Dieu avait vraiment mis des Chinois sur mon cœur. Alors je vais à Singapour, je me dis, maintenant je vais ouvrir des maisons d'enfants parce que c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ouvrir des maisons d'enfants, sauver les enfants des rues et tout ça. J'arrive à Singapour, la première chose que les responsables me disent, bienvenue, on a besoin d'une cuisinière. Une cuisinière? Mais moi, je veux servir le Seigneur, moi je veux amener des enfants au Seigneur, je veux aller dans les rues, je veux chercher. Pendant 2 ans, j'ai dû cuisiner pour toutes les équipes qui passaient et qui parlaient de tout ce que Dieu faisait. Et là, j'étais moi dans cette cuisine, à cuisiner, à servir, à servir. Quelle bonne école. Quand on est dedans, on ne le voit pas de la même façon. Hein. Mais j'étais vraiment pas contente parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que j'ai dépensé autant d'argent avec l'avion pour venir jusque là pour travailler dans la cuisine? Je pourrais aller à Guebwiller et travailler parmi les enfants à Guebwiller. Hein. Là, au moins, je pourrais faire de la cuisine et au moins, je sais que c'est pour les enfants, pas pour les équipes qui passent et qui glorifient le Seigneur. Là. Mais Dieu a attendu et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, tu sais que ta vie est en Asie. Donc, on va commencer par le début. En Asie, la cuisine, c'est le cœur d'une maison. Tout se passe dans la cuisine. Du fait que le Seigneur a permis que je sois dans la cuisine, j'ai pu apprendre la culture. Parce que vous savez, on est différents. Et je vous assure que j'ai dû apprendre, hein, parce que ce n'était pas évident. Parce qu'au début, vous savez, nous, dans notre culture, on est très indépendants. Par exemple, j'allais faire des courses, je reviens, « Ah, t'es allé où? Qu'est-ce que t'as fait? On prend mon sac à main, on regarde dedans et tout. » Oh là là, mais c'est personnel ça chez nous, hein, toutes ces choses. Hein. Bon, il y avait plein de choses comme ça où Dieu a d'abord dû m'aider à réaliser. Mais une chose qu'il m'a dit, Patty, tu es venue pour laver les pieds, pas pour leur laver la tête. Et là, j'ai dû apprendre. Parce que souvent, on vient, on a tout notre bagage avec tout ce qu'on a reçu à l'école biblique et tout ça, et on vient et on dit voilà. Et Dieu a dit non, tu vas laver les pieds, tu vas les servir, tu vas les honorer. Et c'est après cela que Dieu a permis que je puisse aller à Bornéo. Bornéo, en ce temps-là, maintenant ça a beaucoup changé, mais en ce temps-là, il y avait encore les coupeurs de tête. 2 mois après que nous sommes allés dans une de ces tribus, ils ont coupé la tête à un prêtre. Et la tête était rétrécie et sur le poste. Hein. Je vous assure que je louais le Seigneur, mais j'avais toujours mon dos contre un mur. Parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui m'arrive. Tellement c'était tangible, mais nous avons vu des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je dis, Dieu est un Dieu vivant. On était dans ces tribus, les Ibanes et tout ça. Il n'y avait pas de médecin, rien du tout. On leur lisait la parole de Dieu. Il fallait que ça soit marqué. Tout ce qu'on lisait, ça devait être marqué. Et quand il dit qu'il guérissait les malades étaient guéris. On priait et les malades étaient guéris. C'était extraordinaire. Les musulmans se convertissaient. Et je vous assure que ce n'était pas évident pour eux. Parce que nous, on allait partir, mais eux devaient rester. Et à eux, on leur brûlait leur maison. On refusait leurs enfants d'aller à l'école parce qu'ils devenaient chrétiens. Donc il fallait que ma foi soit quelque chose de tangible et de fort pour qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Si c'était que des histoires, pourquoi mourir pour rien? Mais Dieu a fait quelque chose. Et ma vie, c'était un passage dans ma vie qui était vraiment très très fort. Et je loue le Seigneur pour ce passage de ma vie parce que j'ai vraiment pu voir combien Dieu, jour après jour, œuvrait. Mais vous savez, avant d'y aller, on savait qu'on allait avoir des luttes et des combats. Mais avant d'y aller, on a jeûné et on a prié. Rien ne se fait tout seul. C'est pas parce qu'on se dit, oh, je vais lire la parole de Dieu, je vais faire une petite prière et il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a un prix. Si vous voulez des victoires, il y a un prix. Il y a un prix pour la victoire. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est le temps avec Jésus. Ça, c'est quelque chose de primordial, de passer du temps avec Jésus. Et ça fait donc tellement d'années maintenant que j'ai passé en mission. Je sais que ça sera toute ma vie. Et il y a eu des moments forts, des moments low. J'ai fait un burn-out aussi, parce que je me croyais indispensable, n'est-ce pas? Comme beaucoup, des fois on croit qu'on peut tout faire et que Jésus... mais Dieu m'a relevée. Dieu m'a relevée. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que c'était un temps où je me suis dit, je ne vais plus retourner en mission. Mais Dieu n'a pas laissé. Dieu ne l'a pas laissé. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous dites, mais il n'y a pas d'issue, sachez que Dieu fera tout en œuvre pour vous prendre et dire, ne laisse pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Je suis ton bien-aimé. Tu es ma bien-aimée. Et c'est en toi que je me confie. Quelle précieuse de savoir, I am the beloved. Je suis la bien-aimée du Seigneur. Et vous savez, si vous commencez à comprendre ça profondément, beaucoup de choses se mettent en place dans notre vie. De savoir que je suis chérie par Jésus. Il a tout fait pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Et je suis sa bien-aimée. Vous êtes sa bien-aimée, son bien-aimé. Amen. Et j'ai pu voir de jour en jour combien Dieu est fidèle dans ma vie, combien c'est un Dieu de détails. Les moindres besoins, il les connaît. Et que je peux, vous savez, c'est pas juste maintenant 5 minutes dans ma chambre. Ou... Non, non, c'est tout au long de la journée. Tout au long de la journée. De carrément transporter la présence de Dieu. C'est pas juste maintenant 5 minutes parce que j'ai passé un moment avec le Seigneur, mais partout où je vais, il faudrait qu'on arrive à une présence de Dieu dans notre vie, que si on rentre dans un supermarché par exemple, les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent. On a la lumière de Christ en nous, on a la joie de Christ en nous, on a la force et la crainte de Dieu en nous. Et ils tremblent. Un chrétien qui est victorieux, ça se voit. Ça se voit. Et ça sera un petit peu mon message ce soir. Avant, je voulais juste faire une petite parenthèse. Parce que je sais que beaucoup de chrétiens viennent et on ne les reconnaît pas toujours. On sait qu'ils sont là, ils font partie des bancs et tout ça. Mais j'aimerais juste dire quelque chose qui m'a marqué récemment dans la Bible. Vous savez, quand les 120 disciples étaient dans la chambre haute, il fallait nommer un nouvel apôtre. Parce que Judas a trahi Jésus et s'est tué, hein, et s'est pendu. Donc, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et ils en ont trouvé deux. Dans la Bible, il dit ils ont fait un lot, quoi. Hein. Et c'est tombé sur Matthias. Et on n'entend rien de Matthias pendant tout. On ne sait pas, il n'a pas guéri des malades, il n'a rien fait, hein. Mais il était fidèle. Et j'aimerais t'encourager ce matin, mon frère et ma sœur. C'est parce que l'homme voit. Dieu voit ton travail. Dieu te voit. Matthias était là le jour où Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Matthias a vu tous les miracles de Jésus. Il a marché avec lui. Il l'a suivi. Il faisait partie de ces gens qui le suivaient. Matthias l'a vu le jour où on l'a crucifié. Matthias l'a vu le jour où il est ressuscité. Et il a vu le jour où il est monté au ciel. C'était un témoin. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, tu es témoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es témoin des paroles que Dieu a parlées sur ta vie. Tu es témoin de tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent. Toutes les paroles qui ont été dites dans ce lieu, tu les as entendues. Tu as vu des miracles, tu as vu des gens, des vies sauvées, tu as vu des situations dans ta vie se transformer. Tu as été témoin. Et ce matin, Jésus veut dire, à cause de ta fidélité, tu as un prix à mes yeux. Et Matthias a été élevé directement à la position de apôtre, hein? Même pas disciple, apôtre, à cause de sa fidélité. Alors ce matin, Dieu veut te dire, c'est pas ce que l'homme voit qui va faire quelque chose que lui il fait, ou lui il prêche, ou lui il... Non, non. J'ai vraiment ça à cœur, je crois que c'est pour une personne où Dieu veut te dire, c'est parce que tu as été fidèle, c'est parce que tu es là, dimanche après dimanche, que j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi ce soir, à cause de ta fidélité. La présence de Dieu est là. Et soyons encouragés ce soir, parce que Dieu a quelque chose pour nos vies. Déjà cette parole, je crois que Dieu veut parler à une personne ce soir. Je ne la connais pas, mais je crois qu'il a quelque chose à cause de ta fidélité. Dieu a un prix pour toi. Alors sois encouragé ce soir. Peut-être les hommes ne l'ont pas vu, mais Dieu t'a vu. Et ça, c'est important. Dieu t'a vu. Dieu a vu Mathias et Dieu l'a honoré. Dieu te voit ce soir et il va t'honorer. Amen. Alors ce soir, on va tuer des Goliaths. Hein? Ah, moi j'aime David. J'aime beaucoup David. Et on va passer un peu du temps dans 1 Samuel 16 et 17. Mais 16, c'est quand Samuel oint David pour être roi. Parce que les autres, ce n'était pas ça. Alors qu'ils étaient beaux, ils étaient grands, mais Dieu a dit, c'est lui, c'est David. Et je voudrais vous parler ce soir des certaines caractéristiques ou caractères pour être quelqu'un qui peut combattre des géants. Le premier caractéristique que j'aimerais vous relever dans cette histoire avec David, c'est que David, alors que son papa était là avec lui, il a vu que Samuel l'a oint pour être roi. Il se tourne vers lui et lui dit, « Maintenant, va amener du pain et du fromage à tes frères qui sont au front. » Le papa a vu. Ouais, donc c'est un futur roi là devant moi. Et il est marqué dans la Bible que David a obéi. David a obéi. Une des premières choses qu'il nous faut apprendre pour combattre un géant, c'est qu'il nous faut apprendre la soumission. La soumission fait partie, et c'est une des premières choses qu'on a besoin, d'être soumis à l'autorité, d'être soumis à la parole de Dieu, d'être soumis à ce que Dieu a placé au-dessus de nos vies. Ça, c'est très, très important. Et David a compris cela. Ça ne lui est pas monté à la tête. Maintenant, non, mais Dieu, il aurait pu dire à son papa, mais non, mais écoute, moi, je vais être roi. Hein? Non, il a obéi, il a reconnu la soumission. L'autorité. Le deuxième point que j'aimerais vous relever justement dans 1 Samuel 17, où il est marqué que le lendemain, David se leva tôt, à la bonne heure. Ceux qui combattent des géants et qui gagnent des victoires, c'est ceux qui se lèvent tôt. Je ne dis pas que vous vous levez juste quand ça arrive, là, le soleil, non. Mais des fainéants n'arriveront jamais à combattre un géant. Jamais. Il s'est levé tôt. À nous de nous lever tôt. Quelle est la première chose dans nos vies? C'est Jésus, la chose la plus importante. La louange, la prière, la lecture de la parole de Dieu. Afin que notre vie puisse être remplie de lui. Afin que nous faisons face à l'ennemi, nous savons comment, la stratégie, comment l'attaquer. Ça, c'est ceux qui se lèvent tôt le matin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc c'est dans Samuel hein, 17, dans certaines traductions de la Bible, on parle d'une tranchée. Dans le King James, il est marqué que quand David est parti le matin, il a passé une tranchée. Donc certaines traductions de la Bible parlent de ça, hein, mais j'aime beaucoup cette traduction parce qu'il est dit que quand David alla vers Israël, il est passé dans une tranchée et le peuple était là et ils en ont sorti en criant pour le combat. Et là, c'est un autre point qui est très, très important. Très, très important. Parce que, imaginez-vous, vous êtes dans une tranchée. Une tranchée, pendant la guerre, ceux qui ont vécu la guerre savent qu'une tranchée, on était beaucoup plus bas. Et vous avez un Goliath qui est là. Vous êtes dans la tranchée. Et quand on est dans une tranchée, quand on est plus bas, l'ennemi paraît encore plus grand. L'ennemi paraît encore plus grand. L'ennemi viendra toujours vous combattre quand vous êtes dans le plus bas de votre vie. Ah, il aime ça. Il aime ça. Quand on est en bas, c'est là qu'il va venir. Alors que si on sort de cette tranchée, on réalise tout d'un coup que, eh ben tiens, il n'est pas aussi grand que ça, Goliath, hein? Mesurable. Mais quand on est en bas, et quand on reste en bas, l'ennemi prend une double proportion. Et c'est là où on commence à désespérer. C'est là qu'on commence à baisser les bras et on se dit, mais je ne pourrai jamais combattre ce géant. Et Jésus dit, sors de cette tranchée. Et il est marqué dans la Bible qu'ils sont sortis en criant. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un combattre et avoir une victoire en disant, voilà, j'ai gagné, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe quand on a gagné? On crie. Est-ce que vous savez crier? Alléluia, on a la victoire de crier, de chanter, de vraiment élever nos voix. Et c'est ça, vous savez, quand il y a des matchs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils hurlent, ils hurlent, ils hurlent. Et souvent dans nos églises, on se tait, on se tait, on se tait. Vrai ou faux? On n'ose pas. Alors qu'on a la victoire. Parce que quand on gagne une victoire, on la proclame. On hurle parce qu'on sait que c'est Jésus qui a la victoire. Ah, c'est merveilleux de voir ça. Hein, c'est merveilleux. Et puis vous voyez, ce qui était extraordinaire dans 1 Samuel 17, c'est que Goliath était sur le terrain qui appartenait à Juda. Israël était là, les Philistins étaient là, et Goliath marchait sur le terrain qui appartenait à Juda. Et vous savez que Juda voulait dire louange. David est né en Judée. C'était la louange. La louange. Que laisses-tu entrer dans ton terrain? Qui prend position? Qui prend du terrain dans ta vie? Est-ce que tu laisses Goliath t'intimider? Est-ce que tu laisses l'anxiété, les problèmes, les difficultés, le découragement prendre le dessus? Ou est-ce que tu vas sur ce terrain et tu dis, ah non, je reprends le terrain là. Louange, se recouvrir de louange et dire, je reprends ce terrain, il appartient à Juda. Il ne t'appartient pas, Goliath. Il appartient à Juda. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie où tu dois dire, eh bien, ça appartient à la louange, ça appartient au Seigneur. Est-ce que tu as laissé des endroits où l'ennemi a commencé à prendre du terrain dans ta vie? La louange, une arme efficace, efficace pour reprendre du terrain que l'ennemi a pris. Louange et honneur au Dieu Tout-Puissant. Louange à Dieu Tout-Puissant. Et cette histoire est vraiment quelque chose de merveilleux parce que ça me parle pour moi aussi beaucoup parce que bien des fois dans nos vies, hein, on a nos hauts, nos bas et on grandit spirituellement. Il y a des situations qui arrivent et on croit qu'on a déjà pris victoire sur ça, puis tout d'un coup on se retrouve nous dans un terrain, on se dit oups, je croyais que j'avais la victoire sur ça. Et c'est là qu'on réalise que souvent Dieu veut aller beaucoup plus profondément dans notre vie, parce que des fois il y a certaines chaînes dans nos vies qui, comme on a prié ce matin, qui doivent se briser complètement et qui doivent tomber. Et on a levé les bras, Paul et Silas priaient et louaient et les chaînes tombaient. Vous voyez, c'est quand même formidable, on n'a rien à faire, hein. La seule chose qu'il faut faire, c'est lever les bras vers le ciel en disant, Seigneur, je te loue. Et les chaînes qui m'entourent vont tomber. Alléluia. Quel grand Dieu nous servons. Quel grand Dieu nous servons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on voit un tout petit peu plus loin, justement, il y a David qui avance et il entend ce Goliath qui parle. Mais c'est qui celui-là? Mais comment est-ce qu'il peut parler de Dieu, de notre Dieu? Il veut apporter donc à manger à ses frères. Et puis, alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un combat ce Goliath? Quelle est la récompense? La récompense, il aura de l'or, il pourra mailler la fille du roi et il n'aura plus de taxes à payer. Et dans la parole de Dieu, il est dit que David a demandé plusieurs fois. Vous voyez, quelqu'un qui combat un géant ne se préoccupe pas du problème, ne se préoccupe pas de ce géant devant lui. Il se préoccupe de la récompense. Ah oui, son focus est ma récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est d'aller au ciel avec Jésus, d'être avec lui. Là où il n'y aura plus de pleurs, plus de chagrin, plus de maladies, plus d'anxiété, plus des gens qui ont des crises cardiaques. Ça, c'est notre récompense. Est-ce que vous y avez pensé? On ne parle pas beaucoup du paradis, hein? Et pourtant, ça, c'est notre récompense, le paradis. Le paradis est notre récompense. Amen. Est-ce que tu veux y être? Moi, je veux y être. Moi, je veux vivre ce que Dieu me promet, que je serai avec lui. Moi, je veux vivre ça. Alors que le frère de David lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et on en a des gens comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu te dis que tu es un tueur de géants, mais tu es tout petit. Où sont tes brebis? Tes brebis, ils sont où? Tu les as fait garder? Bien souvent, quand on veut marcher avec le Seigneur, il y a des gens qui viennent pour nous décourager. Ils ne voient pas en nous un tueur de géants. Mais qu'est-ce que c'est ça? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu t'es regardé? Et quand le frère de David lui dit ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. David se tourne de nouveau vers les gens et leur demande, vous pouvez me redire quelle est la récompense? Vous voyez, il ne s'est pas attardé sur ce que son frère disait, mais il a dit, quelle, vous pouvez me redire la récompense? Et il lui en a de nouveau dit. C'est extraordinaire. Donc si l'ennemi vient et dit, mais qu'est-ce que tu es? Toi, tu es un pauvre petit chrétien, regarde, tu n'arrives pas. Il dit, Seigneur, quelle est la récompense? Quelle est ma récompense si je bats ce géant-là qui est devant moi? Cet ennemi qui essaie de prendre du terrain dans ma vie, dans ma famille, dans mon mari, ma femme ou mes enfants. Seigneur, quelle est ma récompense si je commence à combattre ce géant? Soyons encouragés ce soir. Dieu a quelque chose pour toi, mon frère et ma sœur. Pour moi aussi. C'est extraordinaire, ça. Et on l'amène vers Saul. Et Saul lui dit, mais qu'est-ce qui t'amène? Oh, il dit, ce qui m'amène. Eh bien, il dit à Saul, mais tu sais, moi j'ai combattu le lion, l'ours. Je l'ai combattu et je les ai tués. Ce que tu fais dans l'ombre a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu ne pourras jamais combattre un géant si dans l'ombre, tu n'as pas combattu ton petit géant. Dieu ne peut pas te donner à combattre des géants qui vont faire une différence dans un pays, dans une nation, dans la vie des autres, si tu n'as pas appris à combattre le géant où personne ne le voit que Dieu. Ça, c'est une clé pour notre vie. Si nous voulons être efficaces dans le ministère, dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, c'est à l'ombre que ça commence. C'est là notre devoir. Le lion, l'ours qu'il nous faut combattre, alors que personne ne voit. Ça, c'est très, très important. Et une autre situation qu'on en voit aussi dans ce passage, c'est quand Saul veut lui donner son armure et David refuse. Vous savez, il y a trop de gens qui ont deux armoires. L'armoire du vendredi soir et l'armoire du dimanche. Si vous allez les voir le vendredi soir, vous ne le reconnaissez pas. Il nous faut faire attention. David a dit, j'ai ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné. Avec ça, j'ai combattu le lion, donc avec la fronde, et avec ça, je vais aller. Avec rien d'autre. Pas d'armure. Et vous savez, de nos jours, il y a tellement de chrétiens qui ont toute la technologie. Ah, mais il y a des trucs super aujourd'hui. Mais David est allé avec ce qu'ils avaient, mais il est allé sous l'onction de Dieu. Avec l'onction de Dieu. Et quand vous avez l'onction de Dieu dans votre vie, même avec la petite fronde, elle fera des dégâts. Elle fera des dégâts. Et si vous êtes ce soir ici, vous dites, mais moi, j'ai pas grand-chose, j'ai juste ça. Mais ça, sous l'onction de Dieu, fera des ravages. C'est tout ce que Dieu demande. Un cœur tout entier. Un cœur qui dit, Seigneur Jésus, j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. Et que ma vie soit une lumière et une gloire pour toi. Et Dieu va utiliser. Pas tout ce qu'on essaye de faire, toute la technologie. Non, 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 non. Toi, avec ce que tu as. Le talent que le Seigneur a mis dans ta vie, pas comparé avec quelqu'un d'autre, ce que Dieu a mis dans ta vie va faire une différence. Et il a mis ça pour toi, personnellement, pour tes combats, pour ta famille, pour ta ville, pour ton pays. Ça, c'est important. C'est merveilleux de pouvoir servir un Dieu aussi grand. Quand David, je ne vous lis pas parce que vous pouvez lire, donc je vous raconte un petit peu. Quand il va vers Goliath, il ramasse 5 pierres. Et je crois qu'il s'est préparé ces 5 pierres parce qu'il s'est dit, si je loupe la première fois, j'ai tout de suite dans ma poche le deuxième. Mais pour nous, c'est la même chose. Si je n'arrive pas à combattre l'ennemi avec la première pierre, je vais prendre la louange. Je vais prendre 2 ou 3 en son nom. On va prier et lier les choses ensemble. Et si ça encore, oh ben on va faire 21 jours de jeûne. Et oui, c'est ça. David n'a pas laissé tomber les bras. Il s'est préparé en se disant, si jamais j'ai une pierre. Alors pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, si la première prière que vous faites, vous ne voyez pas tout de suite quelque chose qui se passe, eh bien, vous avez la louange. Eh bien, vous avez 2 ou 3 que vous pouvez réunir en son nom. Vous avez 21 jours de jeûne, si vous voulez. Mais ne baissons pas facilement les bras. Persévérons. Soyons déterminés jusqu'à la victoire. Et là, il est dit que David, avec la première pierre, parce qu'il était sous l'onction, a tué Goliath. Et là, il y a quelque chose de très, très important. David n'avait pas d'épée. Hein. Il est allé sur Goliath, il a pris l'épée de Goliath et lui a coupé la tête. Des fois, et bien souvent, on abat notre ennemi, mais on ne lui coupe pas la tête. Et si on ne fait pas ça, l'ennemi revient. David est allé jusqu'au bout de la victoire. Jusqu'au bout. Et il a pris l'épée de Goliath et lui a tranché la tête. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a pris la tête et il l'a amené à la maison. Il l'a mis sous sa tente et il a dit, ça, c'est la victoire. Dieu voudrait aujourd'hui que tu coupes la tête à ton ennemi, que tu prennes la tête, que tu l'amènes dans ta maison et que tu dis, voilà, j'ai la victoire sur ma famille. J'ai la victoire sur les enfants. Dieu a la victoire sur mes enfants. Dieu a la victoire sur mon époux. Dieu a la victoire sur mon épouse. David ne s'est pas laissé intimider par son frère. Il a montré, voilà maintenant, aujourd'hui, dans notre maison, la victoire de Dieu va régner. La victoire de Dieu va régner. Mais vous allez me dire, mais j'ai les résultats, j'ai un cancer. La victoire de Dieu va régner aujourd'hui. Mais mon fils et ma fille sont dans la drogue. La victoire de Dieu aujourd'hui va régner dans ma maison. Je refuse de laisser l'intimidation prendre le dessus dans ma vie. Mais je veux proclamer qu'aujourd'hui dans ma maison, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la réconciliation, il y a le pardon. J'ai tué, mais j'ai coupé la tête de mon ennemi. Et il ne reviendra plus dans ma maison. Parce que là, je montre, c'est là, c'est, il est là. Il ne pourra plus. La victoire est là. Alors ce soir, Dieu te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Est-ce que tu seras comme Barthélemy qui disait, mais Jésus, j'aimerais voir. Et Jésus dit, ben, tu seras guéri, tu peux voir. Ou est-ce que tu as besoin juste de toucher le pan de la robe de Jésus pour dire, eh ben, juste en le touchant, je serai guéri. Jésus répond à ton attente personnelle ce soir. Dans la Bible, il nous est montré plusieurs fois que Dieu répondait chaque fois à la personne, à sa demande. Quelle est ta demande ce soir? Quelles sont les choses où tu veux ce soir qui vont faire une différence dans ta maison, dans ta vie, dans ton corps et dans ta maison? Ça, c'est à toi de décider ce soir. Ça, c'est à toi de voir devant Jésus ce soir. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ton cœur. Mais Dieu a quelque chose où il veut faire une différence ce soir. Et j'aimerais que, quand on part de cette réunion, qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans votre vie. Vous savez, on va dans tellement de réunions. On entend tellement de choses. On a un privilège parce qu'on entend tellement. On a un bagage énorme. Mais ce soir, tout simplement, Jésus dit une chose. Que veux-tu que je fasse? Quelle est ton attente? Quelle est ton attente? Es-tu prêt à combattre l'ennemi? Es-tu prêt à aller jusqu'à couper la tête de l'ennemi? Es-tu prêt à reprendre le territoire par la louange? Te revêtir de la louange de Dieu et avec le peu que tu as, de dire, Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je vais avec ton onction. Parce que ça, l'ennemi ne pourra jamais résister. Jamais. Puisque ce n'est pas toi, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est la puissance de Dieu dans nos vies. Que voulons-nous ce soir? Sommes-nous prêts à ce que Jésus fasse dans ma vie une différence? Est-ce que je suis prête à reconnaître que, eh bien, je dois d'abord combattre dans l'ombre, que personne ne voit, personne ne sait, des lions, des ours, des loups, avant que je puisse être utilisé par Dieu pour combattre des géants qui vont faire une différence dans ma ville, dans mon pays. C'est là que ça commence. Si nous voulons, en tant qu'Église, voir des choses se passer à Genève, il faut qu'il y ait des choses qui se passent d'abord dans notre propre vie. Pour qu'après, en tant que communauté, en tant qu'Église, nous puissions, avec la force de Dieu, être une lumière qui va faire des choses extraordinaires. Pas parce que nous, on fait quelque chose, mais à cause de la puissance de Dieu, à cause du Saint-Esprit qui œuvre et qui va nous donner une stratégie. Et c'est ça ce que Dieu voudrait faire ce soir dans vos vies et dans ma vie. Sommes-nous prêts à d'abord faire du ménage dans notre propre vie? Sommes-nous prêts ce soir à dire, Seigneur, je ne veux pas avoir deux sortes de vêtements là, deux sortes d'armoires, mais je voudrais avoir une armoire qui est toute la semaine la même et le dimanche, que quand quelqu'un vient me voir, eh bien, je ne suis pas quelqu'un d'autre, mais je suis qui je suis, sauvée par grâce, la bien-aimée, le bien-aimé du Seigneur Jésus. Ça, c'est ce que Dieu veut ce soir. C'est ça ce qu'il voudrait dire, oui, toi, mon serviteur fidèle, je t'ai vu, je t'ai entendu. Et Dieu veut faire quelque chose en toi ce soir. Nous sommes des David, ce n'était pas juste David, mais nous sommes aussi des David, parce que ce qui nous a mis en main, notre Seigneur, c'est que le Goliath qui est devant toi peut être combattu. Et tu peux prendre son épée et tu peux couper sa tête. Et fièrement, fièrement, tu peux prendre cette tête et dire, voilà, ça sera dans ma maison. L'autorité sera dans ma maison, parce que j'ai compris les principes de l'autorité. J'ai compris les principes de me lever le matin et que Jésus est la première chose dans ma vie. J'ai compris de ne pas rester dans une tranchée, parce qu'on a tous des moments bas, mais je ne reste pas là. J'ai compris que je peux, avec ce que j'ai, combattre des géants sous l'onction de Dieu. Ça va faire de moi un tueur de géants. Et Dieu veut faire de vous ce soir des tueurs de géants. Amen.